Bonjour à toutes et à tous dans le MAG. Aujourd'hui, la Fédération du bâtiment et des travaux publics de l'Aveyron qui s'alarme de la hausse des prix des matériaux. Et puis dans le MAG aussi, aujourd'hui, la nouvelle exposition temporaire du musée FNAI qui fête les 20 ans de sa réouverture cette année. Et c'est d'ailleurs juste après Casabian Underdog sur CFM. CFM Le MAG, depuis le week-end dernier, il y a une nouvelle exposition temporaire au musée FNAI. Le premier événement d'ailleurs dans le cadre des 20 ans de la réouverture du musée. Aurélien Pierre, directeur du musée FNAI de Rodez.
Oui, c'est ça. On fête cette année les 20 ans de la réouverture du musée, voilà, qui existe sinon depuis ses collections depuis 1837.
Et alors l'idée, si j'ai bien compris, c'est de nous montrer les acquisitions faites par le musée FNAI depuis ses 20 ans ou même avant d'ailleurs.
Depuis ses 20 ans. Ouais. Donc depuis 2002, c'est de montrer un peu tout ce travail de fond qui n'est pas toujours visible, qu'on voit des fois dans les expos temporaires. Puisque une des missions d'un musée, c'est aussi d'enrichir ses collections, donc de collecter des documents par rapport un peu au projet du musée. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est lié, attaché à l'histoire du Rouergue, du territoire. Donc on a, voilà, depuis 20 ans, on a eu des opportunités, on a beaucoup de dons aussi, mais aussi quelques acquisitions selon l'opportunité, voilà, du marché, des choses qu'on a pu découvrir.
Il y a combien de pièces là qui sont présentées à peu près ?
On a plus de 70 pièces qu'on présente. Alors on n'a pas montré l'intégralité de nos acquisitions, mais on a quand même une grande partie, sachant que ces acquisitions sont faites toujours avec beaucoup d'attention. Donc de plus en plus, on est attentif à l'origine, la provenance. On a aussi des passages aussi en commission d'acquisition. Donc il y a tout un travail qui est fait derrière. Puisque toutes les œuvres qui rentrent dans les collections d'un musée de France, après, ont un statut bien particulier. Elles deviennent imprescriptibles, inaliénables. Elles ont quasiment un statut de trésor national. Donc on est assez attentif à ce qui rentre dans ces collections. Mais après, ce qui est intéressant quand on les a peut-être toutes ici un peu présenté, c'est qu'on a des petits fragments comme ça d'histoire en pointillés de la préhistoire la plus ancienne, hein, on va remonter à moins 400 000 ans, jusqu'à des documents qui ont une petite centaine d'années à peine. Voilà.
Donc, mais moi, il y a une pièce, une dalle de la place d'armes qui date de 78. Ah, 978.
C'est vrai. Oui. C'est peut-être l'objet le plus récent qu'on ait dans nos collections, ouais, qu'on a au début de. Voilà. Oui, donc des fois des témoignages qui ont une valeur documentaire, mais qui ont une vraie charge aussi, on peut dire émotionnelle. Donc ça, c'est un fragment de dalle en grès de la place d'armes sur laquelle est gravé Place Larzac, donc qui est lié à un événement qui a eu lieu à cette époque-là lors d'une marche des paysans du Larzac vers Paris, première étape à Rodez, le 11 novembre, et ils décident donc de rebaptiser symboliquement cette place, Place Larzac. Donc on a ce témoignage-là, qui est assez touchant, après, qui est vraiment une pièce documentaire, mais qui évoque beaucoup de choses dans l'histoire de ce mouvement.
C'est peut-être pas celle qui vous a coûté le plus cher en termes d'acquisition. Justement, dans les belles pièces, alors je sais pas si le prix d'une chose, c'est pas forcément sa valeur, mais les pièces les plus chères, celles dont vous êtes le plus fier de pouvoir les présenter, c'est quoi ici ?
Peut-être dans le fond, alors à la fois ce très beau coffre Renaissance qui a été découvert il y a un an et demi, hein, qui est vraiment une pièce majeure dont on a eu la chance de pouvoir faire l'acquisition.
Ça, vous l'avez trouvé sur une brocante à Rodez.
C'est ça, oui. Ben après, des fois, oui, il y a des objets qui peuvent sortir des fois dans les brocantes. Donc ça, c'est toujours le rêve de n'importe quel chineur. Hein, voilà. Mais après, voilà, on a aussi une statue menhir, hein, celle de Jouvérac. Voilà, donc je suis très heureux de l'avoir dans les collections du musée Fenaille. Donc ça aussi, ce sont des pièces assez inédites. On a aussi quelques pièces gauloises qui sont aussi très belles, la Vierge du Pas. Bon, on a quand même certains objets qui sortent du lot et qui dépassent, je dirais, l'échelle du territoire et qui commencent un peu à se rapprocher de la grande histoire, quoi. Voilà, avec des grands objets, des choses qui sont, sans parler de chefs-d'œuvre, mais qui sont vraiment de très belles factures, des pièces fortes.
Alors vous dites, sans parler de chefs-d'œuvre, c'est aussi pour la raison pour laquelle cette exposition, vous l'avez appelée l'écume du temps, puisque ça fait penser à l'écume des choses. Donc c'est pas l'océan, c'est l'écume de l'océan. Là, on est là-dedans.
Ben, cette idée que finalement nous dans un musée on récupère des petits fragments, donc il y a cette histoire qui se déroule tout le temps, hein, tous les jours, on est les premiers témoins, mais à des moments, voilà, dans nos filets, ben, il y a quelques objets comme ça, un peu cette écume, hein, si on peut dire, qui reste à la surface. Donc on a ces petits fragments, ces objets qui vont rester des témoignages pour raconter l'histoire du territoire. Donc c'est dans cet esprit-là, hein, le titre de l'exposition.
C'est un rendez-vous dans le cadre des 20 ans de la réouverture du musée Fenaille. Les 20 ans, ça se fête, hein. Donc j'imagine qu'il y aura d'autres rendez-vous tout au long de l'année.
Voilà, il y aura des choses beaucoup plus festives. On va commencer déjà, alors ça n'a rien à voir avec les 20 ans, avec la prochaine nuit des musées, le 14 mai, voilà, au musée Fenaille. On a un très beau concert un peu rock'n'dé, voilà, je vous invite à venir avec Troy von Balthazar, ça sera le 14 mai, très belle prog pour nous. Et ensuite, d'un point de vue plus festif, on a un week-end qui est organisé vraiment à la date anniversaire au mois de juillet, le 9-10 juillet, où là l'entrée du musée sera gratuite avec beaucoup d'animations, des concerts en soirée le samedi soir, des ateliers, enfin plein de rencontres diverses et variées pour qu'il y ait un moment très festif avec voilà, les personnes qui aiment le musée, qui le connaissent pas, qui ont aimé, qui ont envie de se retrouver, voilà.
Il y aura un gâteau d'anniversaire ?
Alors la difficulté, ça sera de le proposer pour tout le monde, mais on en fera peut-être un petit entre nous, voilà. Ouais.
À suivre dans le mag sur CFM, après Alice Cooper, le coup de gueule, le cri d'alarme aussi du président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de l'Aveyron au sujet de la hausse des prix des matériaux dans le secteur. Let's build a house of fire, baby.
CFM. CFM Rodez.
Bonjour Daniel Druyet.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics pour le département de l'Aveyron. Et vous venez de nous adresser un communiqué aux médias, monsieur Druyet, qui fait un peu peur, pour tout vous dire. Et son titre, c'est « Tant va la cruche à l'eau ». La cruche, c'est vous, monsieur Druyet ?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Ben, il se passe que les prix augmentant sans cesse, ben, nos entreprises n'ont plus de trésorerie. Nous avons fait faire une enquête publique par le CERC, qui est le Comité économique régional, sur l'Aveyron, et plus de 54% des entreprises aveyronnaises n'ont plus de trésorerie. Si vous voulez, le problème, c'est que on demande un prix, on nous donne un prix, à la livraison, le prix a changé, et ce prix n'est garanti qu'une semaine maximum.
D'accord.
Et après, on ne sait plus combien ça coûte. Et certains produits ne sont même pas garantie du tout. On vous donne un prix à l'instant T, puis après on vous dit à vos risques et périls. Quoi.
D'accord. Alors vous nous parlez un petit peu de l'inflation des prix des matériaux de construction, de tout ce que vous utilisez, vous et puis toutes les
voilà.
Professions autour du bâtiment des travaux publics. Et donc cette inflation que le client peut avoir sur la note, en fait vous nous dites que c'est pas vous, c'est pas les artisans, ça vient de vos fournisseurs.
Voilà, parce que vous savez que tout se sait actuellement avec Internet, avec tout, et sous couvert de l'anonymat, nos fournisseurs nous l'ont dit. On dit, nous avons consigne par nos maisons mères de ne pas vendre, de faire de la rétention de matériaux pour attendre des augmentations. C'est pour ça que nous, on ne peut pas aller voir le client final, lui dire, bon, mais monsieur, vous avez 30 ou 35% de plus d'augmentation à la fin du chantier. Le client, il veut rien savoir. Mmh. Donc, on prend sur nous, il veut bien faire un effort, le client final, 5%, 10%, mais on prend sur nous et nous avons la trésorerie qui fond à vue d'œil. En plus, se rajoute là-dessus sur cette spéculation. Le quoi qu'il en coûte, il faut que nous rendions les PGE,
les, oui, les prêts garantis par l'État.
Contrairement, et oui, contrairement à d'autres professions, nous n'avons pas été aidés, nous. Mmh. Il y avait des professions qui ont été aidées qui n'ont rien remboursé. Nous, nous remboursons tout. Donc, ça, plus l'augmentation des matériaux, qui est une spéculation vraiment énorme, vous le constatez sur Internet. Vous tapez le bilan de certains distributeurs, vous voyez un chiffre d'affaires en progression de 22% et une marge, un bénéfice de 820% d'augmentation. Alors, si ce n'est pas de l'arnaque, je ne sais pas comment on l'appelle.
Oui, je comprends. Et donc,
oui, quand on reporte toujours l'augmentation sur le dernier, donc ça finira mal.
Et alors, justement, dans ce communiqué de presse que vous adressez aux médias, vos derniers mots, d'ailleurs vos mots de conclusion font peur. Hein. Je vous cite, nous vous avertissons qu'il ne se passera pas 8 mois sans que les marchés du BTP s'effondrent et sans que de très nombreuses entreprises disparaissent. Au train où vont les hausses, on en est vraiment là?
Ah oui, je vous dis, le cumul de toutes ces dettes, parce que on nous a aidés, entre guillemets, avec ces reports de charges, ces prêts garantis par l'État et tout, pensant que le Covid était la dernière des crises, sauf est arrivé l'Ukraine. Et sous couvert de l'Ukraine, les grands groupes en ont profité pour augmenter leurs bénéfices. Pourquoi? Parce qu'en 2020, il leur a été interdit de distribuer des dividendes, puisque leur personnel était au chômage technique. Ce qui fait qu'en 2022, ils doivent payer les dividendes de 2020.
D'accord.
Donc ils ont consigne de créer la pénurie. Alors vous avez des usines qui ne fabriquent qu'à 20% de leur capacité. Vous avez des distributeurs qui stockent, qui attendent des augmentations pour redistribuer le matériel. Et ça c'est vu. Et même les distributeurs nous le disent sous couvert de l'anonymat. Ils nous disent, mais on a consigne, on remplit les hangars, on a consigne de ne pas vendre en attendant l'augmentation. Chaque fois, ils ont le délai, si vous voulez, de 2, 3, 4 semaines, alors qu'ils ont les stocks, les hangars pleins, mais ils vous disent, bon, mais j'aurai le produit dans 3 semaines, en attendant, il a augmenté, et ils vous le vendent plus cher. Et dans 3 semaines, vous recommandez un produit, on vous dit, attendez 3 semaines, alors que c'est le produit qu'ils ont acheté il y a 2 mois. Quoi.
Bien sûr.
Ouais. Ça va à prix.
Et est-ce que vous avez des exemples de matériaux ou de produits justement qui font pour vous l'objet de spéculations qui sont à un prix complètement dingue et pas justifié?
Alors, tout ce qui est métaux ferreux, hein, qui augmente de 300%, tout ce qui est fer, aluminium, je prendrai l'aluminium par exemple, il y a une grande marque aluminium française qui fait faire ses profits au Brésil et qui a subi une augmentation de presque 200%. Ça vient du Brésil, ça vient pas de l'Ukraine.
Et oui, puis c'est loin entre les deux, c'est sûr.
Oh, voilà. Je veux bien qu'il y ait une augmentation due au transport, au carburant, ce que vous voulez, mais ça ne peut pas valoir 200% plus cher. Vous avez des contreplaqués aussi qui ont pris 200%. Et ces fameux contreplaqués, la plupart sont fabriqués dans les Landes, en France.
Et pareil, c'est loin de l'Ukraine.
Et j'ai des collègues qui ont été visiter l'usine, elle travaille à 20%.
D'accord.
Alors qu'elle devrait travailler à 120% pour attraper la crise du Covid et tout ça.
Alors,
vous avez des entreprises de briques qui ne travaillent pas sous couvert d'une trop grande augmentation des combustibles.
Eh oui, oui.
Voilà, alors c'est vrai que le combustible...
Ils ont augmenté, ça on l'a tous vu. Hein.
Ont augmenté,
oui.
mais pas proportionnellement à l'augmentation qu'ils nous délivrent. C'est la spéculation, quoi.
Alors du coup, Monsieur Druillet, là, les entreprises aveyronnaises en particulier, mais alors on est sur un sujet qui dépasse largement le cadre de l'Aveyron, elles font quoi dans le bâtiment, les travaux publics? Elles refusent des chantiers parce qu'elles se disent « je vais le faire à un prix, mais finalement ça va me coûter plus cher que le prix que je fais payer comment ça marche, là ?»
Alors, il y a les deux solutions. Il y a la collectivité locale, les communautés de communes, l'État, qui ne sortent pas de chantier, un travaux publics et un TP. Et après, il y a l'entreprise qui, une fois qu'elle a fait ses calculs, dit « je ne réponds pas parce que je ne peux pas avoir un coût des matériaux. Elle ne peut pas garantir le prix du matériel. Donc, si le maître d'ouvrage n'accepte pas les augmentations à venir, eh bien, il vaut mieux ne pas travailler. »
Là,
de perdre de l'argent. Vous n'en gagnez pas, mais au moins, vous n'en perdez pas.
Bah oui. Là, en France, on parle d'une inflation, en ce moment, générale. Bon, soit c'est des moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on parle de 4-5% pour les Français. Dans les matériaux et du bâtiment et des travaux publics, l'inflation globale, vous l'estimez à combien, là, ces derniers mois?
Oh, je ne sais pas trop, mais nous, c'est plutôt 15%, entre 15 et 18%. Et en moyenne, vous voyez, le 2 mai, là, encore, va augmenter, les vitrages vont augmenter de 18%. Le 2 mai, ils ont augmenté d'à peu près autant au début avril. D'accord. Donc si tous les mois vous augmentez de 18% le produit, mais non, alors, les TP, pareil, les TP, on leur a demandé, à l'État une aide pour le gasoil.
Oui.
On nous a rétorqué que le gasoil avait baissé de 18 centimes et que ça suffisait pour les travaux publics. Mais j'y m'attendais, le travaux public, il consomme deux fois plus de gasoil qu'un agriculteur. J'ai rien contre les agriculteurs, mais l'hiver, ils ne travaillent pas avec le tracteur. Ils travaillent au moisson, au semis et tout ça. Et eux, ils ont un gasoil à 90 centimes. Et nous, nos TP, ils le payent en 80, le gasoil.
Alors,
un 112.
Monsieur Drouillet, comment vous, du coup, on envisage l'avenir là ? S'il y a un chantier, on attend parce que peut-être un de ces jours ça baissera, ou on le fait maintenant parce que c'est cher mais ça sera encore plus cher bientôt ? Qu'est-ce qu'on fait là ?
Mais je pense que c'est ça, il faut le faire parce que ça sera plus cher bientôt.
Ah oui, ouais. Vous voyez pas de sortie ?
En gardant une marge de 5 à 10% au cas où, en surcoût. Alors, il y a une autre solution également qui concernant les travaux, qui consiste à avoir des variantes, parce que souvent, pour ne pas sortir de son confort, on a l'habitude d'utiliser des matériaux manufacturés,
oui.
Que l'on achète, je ne sais pas trop où, on fait souvent en Chine, mais on pourrait utiliser, je vais prendre la pierre locale, le bois local, bon, le fer c'est plus compliqué, puisqu'on n'a plus d'acierie, mais essayer d'utiliser les circuits courts et d'utiliser des matériaux franco-français. Mais pour cela, il faut changer les normes, puisqu'actuellement, dans le bâtiment, les normes qui sont appliquées sont des normes françaises, issues et basées sur des matériaux style norvégien, allemand, qui sont d'une qualité, je veux dire, légèrement supérieure aux matériaux français. Mais tant qu'on ne changera pas cette norme, on ne pourra pas utiliser, puisque chaque fois on nous demande une garantie, on nous demande quelque chose. Je prends le cas d'un arbre, vous achetez un arbre chez un paysan, vous savez que l'arbre il a été planté correctement et que le paysan, quand il aura coupé son arbre, il va en replanter un autre.
Ouais.
Mais on va nous demander la même norme qu'un arbre venant des forêts birmanes ou des forêts sud-américaines. Donc, qui eux, déforestent sans trop réfléchir à l'avenir de la forêt.
Et
c'est ça qui est un peu compliqué, quoi.
Bah oui, ouais, on comprend bien. Et du coup, pour vous, c'est inenvisageable de répercuter les prix à la hausse aux clients, complètement ?
Ah, mais le client refuse. On a des exemples où lorsque vous faites le devis, vous amenez le devis, le client laisse tomber le projet, quoi. Mais il annule carrément.
D'accord.
Il ne le reporte pas, il annule. Il dit je ne le fais pas, point. Voilà.
Vous avez, dans ce communiqué que vous avez adressé aux médias, il y a aussi la copie d'une lettre que vous adressez à ces fameux fournisseurs qui, pour vous, spéculent. Vous espérez que toucher leur cœur, monsieur Drouillet ?
Ben voilà. Parce que, bon, il y a un effort de guerre, je veux dire, entre parenthèses. Mais quand il y a un effort de guerre, tout le monde fait l'effort. Alors que là, pour l'instant, le seul qui fait l'effort, c'est le consommateur.
Et la petite entreprise de bâtiment.
C'est la chaîne qui fait l'effort. Mmh. Puisque nous, on nous dit le matériau au 30%. Ben, on va répercuter 30%.
Oui.
Et ainsi de suite. Mais arrivé en bas de l'échelle, le dernier, lui, il fait ou il ne fait pas. Donc après, si vous remontez l'échelle, si le premier barreau ne fait pas, le deuxième ne fera pas, et ainsi de suite, quoi. Et c'est là où on va se casser la figure.
Voilà, où le marché va s'effondrer, il n'y aura plus de boulot pour les et entreprises.
Oui.
Ok, on comprend.
Voilà, c'est ce qu'on explique aux distributeurs. D'accord, vous voulez gagner beaucoup d'argent sur les stands T, mais attention, si le consommateur ne consomme pas et si nous ne fabriquons plus, nous on disparaît, vous disparaissez aussi, hein.
Et oui.
C'est la loi du marché, c'est la sélection, je veux dire, c'est la sélection naturelle, quoi. Hein,
C'est bien noté. Ben,
compliqué.
Oui, c'est très compliqué, on se rend bien compte. Puis c'est la deuxième situation de crise pour votre secteur après le Covid, on en avait parlé sur CFM.
Voilà, et l'État n'a pas bien pris conscience de la crise dans le bâtiment. Et comme dit le proverbe, quand le bâtiment va, tout va, mais quand le bâtiment ne va pas, rien ne va. Hein. Ah oui, mais j'ai déjà des collègues, moi, qui sont dans l'alimentation et qui ont vu une baisse de chiffre d'affaires. Mais les gens ne consomment plus, tout est trop cher, donc ils ne consomment pas.
Ouais, ça va être notre...
Je vais dire des bêtises, mais où vous faites la maison, où vous mangez, quoi. Enfin, je veux dire, le choix est vite fait. Hein.
C'est sûr. Merci beaucoup, Daniel Drouillet, d'avoir été avec nous sur CFM pour nous parler de cette grosse problématique des entreprises du bâtiment et des travaux publics face à la hausse des coûts des matériaux. Et j'ai essayé de trouver une note d'espoir, mais il n'y en a pas tellement, hein.
Non, mais vous savez, on est habitué, mais si on ne dit rien, quand je dis on est habitué, on a vécu plusieurs crises, mais celle-ci est vraiment très 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 forte et très dangereuse.
Bon courage, monsieur Drouillet.
Merci.
Voilà, c'est déjà la fin du MAG pour aujourd'hui. Rendez-vous demain même heure pour une nouvelle édition. En attendant, excellente journée à toutes et à tous sur CFM.